Chers amis, bonjour, nous allons, ou bonsoir pour vous, nous allons aujourd'hui commencer une conférence ayant pour thème les dieux Tlaloc et les dieux Ejecatl. Ce sont deux maîtres, l'un de l'eau et l'autre de l'air. Nous allons commencer par étudier les dieux aztèques du vent, de l'air, les dieux Ejecatl. Il existe quatre éléments fondamentaux dans la nature qui sont, bien sûr, les feux, l'air et la terre. Ces quatre éléments de la nature sont la base de toute la création, et ils ont aussi leurs élémentaux. Les élémentaux de la nature sont des créatures innocentes, et elles sont sous les ordres des maîtres, ou des anges, ou des devas qui les gouvernent, parce que tout dans la création, tout dans l'univers a un ordre. Les élémentaux de l'air, qui sont les sylphes et les sylphides, sont gouvernés par un maître, appelé par les aztèques les dieux du vent, Ejecatl. Il y a quelques maîtres, quelques anges qui gouvernent les élémentaux du vent. Et un de ces anges a été connu par les Aztèques comme Ejecatl. La nature n'est pas quelque chose de morte, d'inerte, inconsciente. Toute la nature est remplie de vie et d'intelligence. Elle possède des principes animiques. Animiques voulant dire qui possède de l'âme. Cela signifie que les montagnes, les nuages, les rivières, les fleuves, les mers, les océans, les arbres ont une âme et des principes animiques et sont gouvernés par des principes divins, intelligents. Et c'est le cas pour toute la création. Il est merveilleux de voir comment les Mayas et les Aztèques, dans leurs codex, leurs pyramides, etc., placent des yeux et une bouche sur les montagnes, sur les collines. Ils les humanisent. La nature, les montagnes, ils les humanisent. Parce qu'ils voient dans chaque colline, dans chaque montagne, dans chaque rivière, dans les ventes, dans toutes les choses de la nature, des principes intelligents et divins. C'est un sujet très intéressant qui vaut la peine, il vaut la peine d'étudier. Les traditions mexicaines nous parlent d'un endroit d'où surgit tout ce qui existe, tout le créé. La racine de tout, tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Eh bien, il s'appelle cet endroit l'endroit de Dieu, parce que c'est un lieu où se trouve la divinité, où se trouve la couple divin, duquel tout surgit. Tout surgit. Ce couple divin est le seigneur de la dualité et la déesse de la dualité. Ce seigneur de la dualité représente notre Père qui est en secret, comme l'appelait Jésus, et la déesse de la dualité est notre Mère divine. Et ils vivent donc dans cet endroit appelé l'endroit de Dieu. En Nahuatl, on appelle ce lieu Omejocan. Ome voulant dire Dieu et Jocan voulant dire endroit. Omejocan est donc l'endroit de Dieu pour les Nahuatl. On appelle aussi Joali Ejecatl à cause du vent et des ténèbres qu'il se trouve. Mais pourquoi? Eh bien, parce que Ejecatl est le dieu du mouvement cosmique. Et le dieu du vent, d'accord? Alors, Joali Ejecatl est le grand mouvement cosmique dans l'Omejocan, l'endroit de Dieu, où règne l'authentique félicité du monde, une béatitude inépuisable et profonde. Le dieu Ejecatl a donc une grande importance, c'est le dieu du mouvement, le dieu du vent. C'est un grand maître qui a sous son commandement des millions et des trillions de sylphes et de sylphides de l'air. Lorsque vous ressentez ces ventes, et vient cet Ejecatl. C'est un maître divin qui représente le mouvement pour que surgisse tout ce qui existe, tout ce qui est, a été et tout ce qui sera. Tout cela représente et représenté au même temps par Ejecatl. Chez les Aztèques, chaque jour avait un nom. Le premier jour était dédié au Lézar, au Caïman. Le deuxième jour était dédié précisément au dieu Ejecatl parce que ce deuxième jour était le jour du mouvement du vent. Et ces principes étaient vraiment très importants dans le calendrier aztèque, les principes du mouvement. Eh bien, nous rappelons aussi que quatre races humaines ont existé avant nous dans cette planète Terre. La première race fut la race polaire, la deuxième race, la race hyperboréenne, la troisième race fut la race lémure, et la quatrième, la race atlantée. C'est de l'Atlantide. Nous sommes la cinquième race humaine, la race aryenne. Toute l'humanité actuelle a pour nom secret la race aryenne, d'accord? ce nombre à rien n'appartient pas juste seulement les êtres humains d'un couleur de peu, d'accord? C'est toute l'humanité actuelle. Eh bien, la race à rien, toute l'humanité actuelle, et nous nous trouvons dans les temps de la fin pour nous, de cette cinquième race. Nous avons arrivé jusqu'à un moment de dégénération si grande que l'espoir pour nous est à terminer. Il est incroyable le degré de dégénérescence de notre race. Eh bien, s'il n'y a pas d'espoir pour une race humaine, le destin, c'est la continuation, c'est la termination. La première race, ou la première soleil, parce que les Aztèques appelaient les races humaines passées comme les fils du soleil, d'un soleil, eh bien, le premier soleil, donc, ou la première période du temps, ils l'appelèrent le soleil jaguar. Je le répète parmi les Aztèques. Le deuxième soleil, ils l'appelèrent le soleil vent, ce qui veut dire que la deuxième race avait aussi le nom du dieu du vent, Ehecatl. Si nous observons les hiéroglyphes représentant le dieu Ehecatl, nous voyons qu'il porte un masque avec un bec d'oiseau, parce que c'est par ce bec que passent les ventes, que passent les haleines divines. Le souffle divin, c'est même que la parole, le son, le verbe. Ehecatl représente le mouvement, il représente la parole, il représente le souffle divin. Et il représente aussi le deuxième jour du mois aztèque, le deuxième soleil, à son nom aussi, les fils du deuxième soleil, les Hyperboréens, qui furent amenés par de très forts ouragans, ce qui signifie qu'ils ne dégénéraient pas, ils restèrent purs. Les mots ouragans représentent le cœur du ciel, l'esprit. Ils incarnèrent l'esprit. Ils furent rasés par de très forts ouragans. Ce qui veut dire qu'ils s'incarnèrent l'intime, l'esprit. Voilà qui étaient les habitants du deuxième soleil correspondant à Ehecatl. Par contre, Ehecatl a été très souvent confondu avec le maître Quetzalcoatl, mais il n'est pas Quetzalcoatl. Ce sont deux maîtres complètement différents, d'accord? Quetzalcoatl est un avatar, un messager divin qui va donner l'enseignement, la connaissance au Mexique, comme le fait le maître Jésus-Christ en Terre Sainte, au Bouddha, et Krishna en Inde, ou Fuji en Chine. Tous ces maîtres ou messagers donnèrent un enseignement et Quetzalcoatl fut un avatar au Mexique. Mais il n'a jamais été Ehecatl. On représente souvent Quetzalcoatl avec le même masque que Ehecatl, d'accord? Parce que Quetzalcoatl représente le feu sacré qui donne vie au monde, au soleil. C'est pour cette raison qu'il est représenté avec ce même masque. Mais il n'est pas Ehecatl. Ce sont deux personnages complètement différents. Alors, Ehecatl est le dieu de l'air, du vent, de la nuit, et on le représente comme une divinité invisible et impalpable parce que l'air et les vents sont impalpables et invisibles. Les Nahuatl le représentent avec le masque de la mort et avec un immense crâne ou bien nous. Avec les lèvres de sa bouche allongées comme les becs d'un oiseau, bouche par laquelle sortent et passent les vents, les souffles. Les traditions nous disent qu'apparaît en première Ehecatl, et ce n'est qu'ensuite qu'apparaît la loque pour apparaître la pluie. Parce que c'est ainsi comme se passe dans la nature. La plupart des temps, avant de la pluie, nous sentons, nous voyons, nous percevons les ventes. C'est Ehecatl qui vient avant Tlaloc, le dieu de la pluie. Ehecatl souffle en première pour balayer et nettoyer la terre, puis qu'ensuite les pluies du dieu Tlaloc, les arrosent ainsi que toute la terre et toute la nature. Et vous l'avez certainement tu remarqué, avant la pluie, il y a souvent du vent ou une petite brise. C'est le dieu Ehecatl qui prépare le terrain pour Tlaloc, le dieu de la pluie, prépare la nature. La bouche de Hecatl est en forme de bec d'oiseau pour représenter le souffle du vent, voyez-vous? Lorsque le vent venait de l'Orient, où se trouve précisément le paradis de Tlaloc, le paradis du dieu de la pluie, on appelait ce vent Tlalocayotl, nom qui vient de Tlaloc, dieu de l'eau, dieu de la pluie. Lorsque le vent souffle du nord, et le nord est l'île droite où se trouve l'inframonde chez les Aztèques. Ce vent venant du nord s'appelait Mictlantecuhtli pour indiquer qu'il venait de l'inframonde du nord. Lorsque le vent venait de l'ouest, la région où se trouvaient les femmes qui mouraient durant l'accouchement pour les Aztèques, on l'appelait Dihuatecayotl. Et lorsque le vent venait du sud, région des déesses, on l'appelait Huitzanahua. Eh bien, ces noms aztèques, peut-être, sont certainement très difficiles à mémoriser, mais dans tous les cas, cela montre que dans la nature, tout est vivant. Rappelons-nous que la nature est animique. Elle a une âme, ainsi que tout ce qui se trouve en elle. C'est une grande réalité, c'est la vraie. Le vent est conduit par les sylphes et les sylphides, qui sont les élémentaux de l'air. Ce sont eux qui bougent et l'air et le vent. Et leur temple est situé toujours en Orient. Où que nous nous trouvions sur la Terre, si nous nous redirions vers l'Orient, c'est dans cette direction que se trouvera le temple des élémentaux de l'air, les sylphes et les sylphides. Chez les Aztèques, le temple dédié à Hecatl avait une forme très drôle, très spéciale, une forme circulaire, parce que le vent souffle de tous les côtés, des quatre côtés. Et il n'y a donc pas de point cardinal spécifique à Hecatl. Le vent peut arriver n'importe d'où. Nous pouvons voir sur l'image un temple circulaire qui a été découvert lors d'une construction de métro à la ville de Mexico. C'est vraiment un temple magnifique et il y a une forme circulaire, vous voyez? Lorsque nous désenterrons nos défauts et si nous voulons que les sylphes et les sylphides de l'air viennent nous aider, il faut savoir qu'il ne se trouve pas seulement dans les vents qui soufflent dans l'air de toute la nature, c'est-à-dire à l'extérieur, mais qu'il se trouve aussi dans l'air que nous respirons, bien sûr. Ces sylphides atomiques se trouvent dans nos airs vitaux à l'intérieur de nous et ils peuvent être au service de notre imagination mécanique, qu'il ne faut pas confondre avec l'imagination objective et consciente. Parce que, vous savez, il y a deux sortes d'imagination. L'imagination consciente, c'est quand, par exemple, un architecte imagine une maison. Elle apparaît tout d'abord dans son imagination, et ensuite, il la cristallise en la construisant matériellement. C'est une imagination créatrice, d'accord? Par les artistes aussi, par exemple. Mais nous avons aussi une imagination mécanique qui entre en action lorsque nous nous imaginons. Par exemple, lorsque nous perdons notre conscience et nous tombons dans la fascination d'une idée. Par exemple, nous voulons une voiture et nous nous imaginons, nous avons des fantaisies où nous sommes déjà avec ces voitures. Nous avons ces voitures et nous nous imaginons que nous l'avons et que nous les conduisons, etc. Ou nous imaginons, par exemple, si nous sommes célibataires, que nous trouvons la femme ou si elles sont femmes, l'homme de notre vie, ou que nous gagnons la loterie. Ces exemples sont l'imagination mécanique, c'est-à-dire la fantaisie. Dans ces cas-là, il s'agit, je le répète, de l'imagination mécanique. Les sylphes atomiques de nos propres airs vitaux peuvent donc être au service de l'imagination mécanique et les motiver. D'accord? Et nous sommes complètement perdus, complètement hypnotisés par ces fantaisies. Là-bas, ce sont aussi là les sylphes et les sylphides de l'air dans notre nature, dans notre intérieur. Lorsque nous avons beaucoup de pensées effeuillées, ils jouaient avec celles-ci. Et alors apparaissait nous la lascivité et les pensées perverses, les assassinats, etc., etc. Il faut être donc très prudent avec nos pensées de luxure et nos pensées perverses, car sinon, les sylphes et les sylphides atomiques de nos cerveaux ne pourront jamais nous aider ou nous venir en aide dans les travaux que nous devons réaliser. Parce que nous sommes... nous n'avons pas contrôle sur eux à notre intérieur, et alors nous n'aurons pas contrôle sur eux, sur les élémentaux à l'extérieur. Une personne légère et capricieuse dans son personnalité ne pourrait jamais gouverner les sylphes et les sylphides de la nature. Nous pouvons donc arrêter d'être ce genre de personnes si nous voulons qu'ils nous viennent aider. Alors nous devons observer notre personnalité et changer ce que nous devons changer pour avoir la capacité de contrôler dans notre intérieur et à l'extérieur ces élémentaux. Puisque ces élémentaux de l'air puissent nous servir et nous aider dans toutes les activités de notre vie quotidienne, nous devons conquérir certains vertus. Si nous n'avons pas assez de concentration dans notre méditation, cela veut dire que les sylphes et les sylphides de l'air ne sont pas en harmonie et nous. Ils sont désorganisés, ils sont désordonnés. Alors, de ces désordres, de ces tensions, on se sent complètement désemparé, se manquant de concentration dans nos pratiques et dans nos méditations. Pour que les élémentaux de l'air puissent nous aider, nous devons posséder certaines vertus auparavant. Il faut que nous soyons rapides et actifs, comme ils le sont. Ne pas être paresseux, lente, nonchalante. Si nous avons un tâché à faire, et nous pensons, je le ferai demain. Demain peut-être. Non, mes amis, nous devons être rapides, vitaux, comme les élémentaux de l'air. Nous avons un tâché, nous avons les tempes, nous avons les outils pour les faire. Nous les ferons. Nous les ferons dans ce moment. Il faut que nous soyons rapides et actifs, d'accord? Ils sont très rapides et très actifs, les élémentaux de l'air, les sylphes et les sylphides, et nous devons être comme eux, pour qu'ils puissent nous venir en aide dans les très nombreuses activités que nous avons dans notre vie et de tous les jours. Le maître Ehekatl est un personnage, est un maître, est un très grand initié. Le mot Ehekatl représente le vent en lui-même. Tous les vents existants sont représentés par Ehekatl. Les sylphes et les sylphides de l'air sont présents dans tous les vents et ils sont très joueurs. Nous sommes en train d'étudier quelque chose, et arrive un petit vent qui fait s'évoluer une fille près de nous. Oui, ils sont très joueurs et taquins. Ils aiment jouer avec nous. Si vous voyez la nature, vous voyez comme vous pouvez voir comment le vent et quelques tempes est très joueur. Ce sont les sylphes et les sylphides dans la nature. Oui. Eh bien, Ehekatl représente donc les verbes, les ventes, la parole. Il représente aussi la nuit. Mais c'est aussi un grand maître, un initié, un grand être illuminé et il peut nous aider. Tous ces maîtres sont bien vivants. Ils ne sont pas morts, ils n'ont pas de corps physique, mais ils sont présents dans la nature. Ils sont dans tout. Ce sont des êtres divins, des êtres qui sont au-delà du bien et du mal. Et si nous les invoquons, si nous les appelons, ils peuvent très certainement nous assister, si nous les méritons, si la loi divine est d'accord. On peut dire que Ehekatl est un ange. Et si nous l'appelons l'ange Ehekatl, c'est très bien, parce que c'est un être supérieur. Il apprend à sortir et compassera consciemment à celui qui lui demande, je le répète. Le maître Ehekatl apprend à sortir un corps astral consciemment à celui qui le demande. Il suffit, juste avant de nous endormir, de l'appeler de tout notre cœur et de toute notre âme, et il viendra. Bien sûr, nous ne le voyons pas près de nous, mais il sera là. Il nous aidera à sortir un corps astral consciemment. Il vient aussi à notre secours durant les petits et les grands voyages. Puisque les voyages sont en relation avec les mouvements, donc en relation avec Hegel. Il peut nous aider aussi dans notre travail et de tous les jours. Dans notre travail, pour gagner les pains de chaque jour, oui. Mais nous devons le mériter, nous devons dominer les éléments de l'air à notre intérieur pour que les éléments de l'air à l'extérieur et même les maîtres Hegel puissent venir à notre secours. Si nous les supplions, ils peuvent réellement nous guérir d'une maladie que nous avons depuis longtemps. Ils peuvent réellement éloigner de nous une personne qui nous pose beaucoup de problèmes et de conflits. Mais ceci, je le répète s'il vous plaît. Toujours en accord avec la loi du karma. Toujours en accord avec la loi du karma. Les maîtres ne font jamais rien gratuitement. Ils demandent une compensation. Et ce n'est pas, comme beaucoup de gens le pensent, impatient avec des choses bizarres. Non, attention. Les maîtres demandent à être pagés avec des bonnes œuvres. Ils exigent que nous faisions des bonnes œuvres. Mais eux ne gagnent rien avec celles-ci. Seulement, c'est qu'ils ne peuvent pas violer la loi. Ils peuvent nous aider. Et si seulement, c'est la loi qui les leur permet. Et pour que la loi permette telle ou telle demande, il faut que nous ayons du poids dans notre pétition. Et pour qu'il y ait du poids dans notre demande, nous devons faire ou avoir fait des bonnes œuvres. Voilà ce que demandent les maîtres, car il n'y a jamais rien de gratuit, chers amis. Ils demandent des bonnes œuvres autour de nous, des bonnes œuvres pour l'humanité, un paiement pour leur aide. D'accord? Alors, les meilleures choses à faire, chers amis, tous les temps, n'importe qui, n'importe où, c'est faire des bonnes œuvres pour avoir notre crédit, pour recevoir l'aide des maîtres lorsque nous en avons besoin. Nous le répétons, ils ne seront pas plus puissants s'ils nous viennent en aide. Non, pas du tout. Tout simplement, ils ne sont pas au-dessous de la loi et lorsque nous faisons une demande à un maître, par exemple, pour demander à qu'il éloigne de nous une personne qui nous fait beaucoup de problèmes, il faut que ce soit toujours en accord avec la loi. Notre demande à Hegel, par exemple, peut être la suivante. Une méditation. Avec le corps et le mental bien relaxé. Maître Hegel, en accord avec la loi, aide-moi à ce que cette personne ex s'éloigne de moi, de ma vie. Et immédiatement, si nous faisons cette demande et que nous avons une contrepartie, le maître Hegel acceptera cette demande. Il faut se souvenir que nos bonnes œuvres, nos bonnes actions sont placées sur un des deux plateaux de la balance de la loi du karma et nos mauvaises actions sur l'autre plateau. Si notre capital de bonnes œuvres est important et qu'il pèse plus que la demande, et toujours en accord avec la loi, notre demande sera exaucée. Dans le cas contraire, si nous n'avons pas assez de bonnes œuvres sur notre plateau pour payer notre demande, Hegel ne pourra pas enfreindre la loi et notre demande ne sera pas acceptée n'importe combien de temps nous répétons cette oration, etc. D'accord? Nous devons avoir les bonnes œuvres pour payer cette pétition et toujours en accord avec la loi du karma. La loi du karma est au-dessous de ce que peuvent faire les maîtres. Et il faut bien sûr demander, puisque le maître Jésus nous a bien dit, demander et il lui sera donné. Mais il faut aussi faire beaucoup de bonnes œuvres pour que les maîtres puissent nous aider. Ils ne peuvent en aucun cas violer la loi du karma ou accepter des caprices. Si nous demandons à Hegel d'éloigner notre belle-mère de nous parce que nous ne la supportons plus, il ne le fera pas, c'est évident. Ce genre de demande ne peut pas se faire. Les demandes doivent être justes, c'est vraiment indéniable. Il faut seulement comprendre cela. Étudions maintenant le maître Tlaloc. Son nom est très intéressant. Il signifie « les vents qui voient la terre ». C'est le dieu de la pluie, mais il représente aussi énormément de choses. Souvenez-vous que Huehuetéotl représente le feu de la création. Il représente aussi notre maître intérieur profonde. Notre père qui est en secret. C'est un maître. Coatlicue représente notre mère divine. Et c'est aussi une grande déesse, une grande initiée, une grande maîtresse. Et il en est de même pour Ehecatl. Et de même, Tlaloc représente aussi de nombreuses choses. Il représente la montagne, mais me direz-vous, comment est-il possible qu'il représente une montagne s'il est le dieu de la pluie? La montagne est faite de terre et elle devrait être représentée par Coatlicue. Oui, oui, c'est certain. Mais dans les montagnes, dans les collines, il y a aussi de l'eau, n'est-ce pas? Les anciens pensaient que les montagnes étaient des réservoirs d'eau. Donc, elles étaient dédiées au dieu Tlaloc. Le dieu de la pluie, parce que c'est des montagnes du coule l'eau. Le nom Tlaloc signifie le tout. C'est la rivière, c'est la fleuve, c'est la mer, c'est l'océan. C'est la pluie qui tombe et qui fertilise nos champs. C'est l'eau qui est contenue dans notre corps. C'est un tout dans l'unité. Son nom est très significatif parce qu'il vient de Tlali, Tali, qui veut dire terre, et Doctli, qui signifie vent. Les vents qui voient la terre. Voilà la signification du nom Tlaloc. Cela nous montre que la nature est en vie. Elle a de la vie en elle. Les vents qui voient la terre. Pourquoi? Parce que l'eau féconde la terre pour qu'il surgisse la vie, pour qu'apparaisse la plante, pour que les arbres s'alimentent, pour que poussent les plants de maïs. Oui, c'est le vent qui boit la terre. C'est le nom de Tlaloc, mais il ne concerne pas seulement la nature. Il nous concerne aussi, car notre corps physique est notre chambre, notre terre. Nous avons aussi un vent qui voit la terre, et ce sont nos propres eaux pures de vie. Voilà ce que représente aussi le seigneur Tlaloc. Alors, Tlaloc représente les forces de la nature. Il représente l'éclair dans ses nuits tourmentées, lorsqu'il pleut avec une grande intensité. Soudain apparaît l'éclair, suivi du tonnerre, qui fait tressaillir toute la création. Là se trouve justement Tlaloc. Il représente les forces de la nature, les fleuves et les rivières chantantes qui coulent dans leurs lits de cailloux, de pierres. Tout cela, chers amis, est Tlaloc. Tlaloc est la nature. Dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, mais il est aussi présent à l'intérieur de nous-mêmes. Il est nos propres eaux pures de vie à notre intérieur, dont nous parle la Genèse de toutes les religions. Les alchimistes médiévaux appelaient ces eaux les mercures philosophiques, d'accord? Cette eau pure de vie, c'est celle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous amène à la vie. Ce sont les eaux de la création, les eaux sexuelles, nos propres forces créatrices et celles de l'univers. Tlaloc représente tout cela. Tlaloc est un maître illuminé. Est un maître qui est au-delà du bien et du mal. C'est un être divin qui a éliminé l'ego. C'est pour cela qu'il représente l'étude. L'étude dans l'unité. Il est le, l'éclair, l'océan, la rivière et le fleuve. Il est tout ce qui contient des le pour les Aztèques. La nature entière est Tlaloc. C'est une maîtresse autoréalisée. Un être divin qui a réussi à désintégrer tous les défauts de type psychologique que nous avons tous. Il élimina l'orgueil, la luxure, la paresse, sa gourmandise, son envie, sa vanité. Il a accompli les devoirs que nous devons tous réaliser aussi. Et c'est pour cela qu'il devint, qu'il se transforma en maître, en Dieu, en ange. Voilà qui est le maître Tlaloc comme individu. Il y a des êtres divins dans toute la nature, et nous ne pouvons pas accepter les mécaniques sans mécaniciens, mes chers amis. Si la nature est parfaite, si la nature travaille bien, de manière parfaite, intelligente, c'est parce qu'il y a des mécaniciens derrière, intelligence derrière. La nature a une mécanique, bien sûr que oui, d'accord, et un ordre. Il y a une intelligence dans la nature. S'il y a des mosquites, c'est pour une raison. Mais ils sont aussi des prédateurs pour équilibrer leur nombre, n'est-ce pas? Tout est mathématique, tout est correct, tout est exact, tout est parfaitement calculé. La nature va toujours avoir un ordre. Ce sont nous, les hommes, l'humanité, qui altérons cette nature avec nos agissements. Le froid est nécessaire. Les personnes qui habitent dans le froid ont froid et quand il fait très froid, elles se plaignent. Mais le froid est nécessaire. C'est partie de l'équilibre dans la nature. Il y a une raison pour que ce froid existe. Et la nature en a besoin. Tout n'est que mathématique dans la nature. Et si cette mathématique existe, c'est qu'il existe une intelligence dans cette nature. La nature a besoin des êtres intelligents pour diriger tout cela, et ces êtres divins sont les anges et les archanges, aussi appelés les devas du monde oriental, les prahapatis de l'âne millénaire, ou les cosmocrateurs parmi les grecs, les Elohim de la culture hébraïque, ou les anges du christianisme, et les dieux des aztèques ou des mayas et des égyptiens. Ce sont les principes de la création. Souvent ici au Mexique, nous avons l'habitude, mais cela se passe aussi dans toutes les parties du monde, nous avons l'habitude de maudire les principes intelligents. Lorsqu'il pleut beaucoup et qu'il y a des inondations, nous disons des choses absurdes et ridicules. Nous nous mettons à maudire les dieux, les anges et les archanges, et disant par exemple, les dieux Tlaloc est fâché contre nous, etc. C'est une façon totalement absurde et ignorante de parler ainsi parce que, très souvent, les maisons sont construites dans ces endroits inondables. Pourquoi construisons-nous des maisons à côté des lits, des rivières? Pourquoi sommes-nous contre la nature? Si lorsqu'il pleut, en bas de certaines collines, il y a souvent des éboulements avec des glissements de terrain. Alors pourquoi construisons-nous justement des habitations humaines en bas de ces collines? Ce n'est vraiment pas raisonnable, ce n'est vraiment irresponsable, c'est vraiment irresponsable d'agir ainsi. On peut dire que beaucoup de personnes ne réfléchissent pas aux conséquences de leur acte. Pourquoi font-ils cela? Quand les catastrophes arrivent, nous disons que c'est la faute de Dieu, de cet être divin, mais c'est notre faute, Anus. Nous devons être un peu plus intelligents. Nous devons arrêter d'être cupides, parce que cette cupidité est vraiment horrible. C'est elle qui fait que les gouvernements autorisent des constructions dans des zones inondables. Cela ne devrait jamais exister, ni être permis. Les maîtres, les dieux et les êtres divins ne sont pas responsables ou coupables des inondations. Nous sommes très coupables de ne pas faire les choses comme elles devraient être faites, respecter la nature. Parce que nous avons de nos jours beaucoup de possibilités scientifiques pour étudier le sol, la géologie, mais à cause de la cupidité, nous faisons les choses que nous ne devrions pas faire, et ce n'est pas la faute des êtres divins. Les êtres divins qui gouvernent la nature agissent en accord avec la loi et sont appelés les rois angéliques. Pour les chrétiens, il y a des cours angéliques composés d'anges, d'archanges, des principautés, des vertus, des puissantes, des dominations, des trônes, des chérubins et des séraphins. Ces êtres divins sont les hôtes célestes qui gouvernent chacun les différentes dimensions de la nature. Les anges gouvernent le monde astral, les archanges le monde mental. Les principautés régissent le monde des causes naturelles et ce sont eux, justement, qui gouvernent la nature, là, dans la région des causes naturelles. Ce sont Ehecatl, Quatlique, Huehuetéotl, Tlaloc, et il fait partie de l'occulte dans l'Antiquité. Il est merveilleux de voir que dans l'Antiquité, il n'adorait pas des idoles comme on pourrait le supposer. Mais non. Ceux qui pensent que nos ancêtres adoraient des idoles sont complètement dans l'erreur. Parce qu'ils adoraient la nature tout entière, représentée aussi par ces dieux, mais ils adoraient la nature tout entière. Ces êtres divins ne sont pas responsables de notre ignorance. Les anges chrétiens ou les dieux aztèques sont exactement les mêmes. Les devas de l'Inde millénaire aussi, ce sont les mêmes êtres divins, même s'ils ont des noms différents. Nous pourrions même dire que l'ange Uriel est un deva comme dans le monde oriental. Ou bien nous pourrions dire les dieux Uriel au Mexique, ou les maîtres Uriel, comme le disent les étudiants gnostiques. Nous pouvons même parler du dieu Tlaloc en tant qu'ange Tlaloc, et en faisant cela, nous ne faisons aucune erreur. Nos ancêtres les rendaient un culte vraiment extraordinaire. Alors, Mexico, berceau de la culture mexicaine, s'est construit ici, à l'endroit, même où un aigle dévora la serpent, en haute d'un nopal, une figuière, sur un rocher. C'est là où se trouve actuellement la socle de la capitale du Mexique. C'est là où se trouve le temple majeur. Tenochtitlan fut la cité qui s'éleva à cet endroit. Et c'est aussi là qu'il s'est construit sur deux grands sanctuaires, où un dédié au colibri gaucher, dont nous avons parlé dans notre conférence antérieure, et qui est notre seigneur Huitzilopochtli. Huitzi voulant dire colibri, et Opochtli voulant dire gaucher. Et l'autre temple était dédié à Tlaloc. C'est un temple gémeaux, vous le voyez? Et l'autre temple était Huitzilopochtli, pour Huitzilopochtli et pour Tlaloc. Ces deux temples, l'un dédié à Colibri Gaucher et l'autre à notre Seigneur vénéré Tlaloc, dieu de la pluie, montrant bien l'importance qu'ils avaient dans la vie de nos ancêtres. D'ailleurs, ils construisirent beaucoup de sanctuaires dédiés à Tlaloc. Il y en avait partout, partout. Il était très important pour nos ancêtres et pour nous. L'un des sanctuaires avait le nom de Colline Tlaloc. C'était une colline vraiment très haute, exactement, et c'est en train d'être découvert à notre très grand sanctuaire dédié à Tlaloc. Parmi les montagnes du centre de Mexique. C'est le plus grand sanctuaire existant dans toute la Mésoamérique. Comme nous le disions, les montagnes et les collines étaient dédiées à Tlaloc parce que celles-ci coulaient de l'eau. Nous voyons ici sur cette image un hiéroglyphe ancien de la colline de Tlaloc. Il a la forme d'une colline et on voit l'emblème de cette divinité des pluies. Les dieux de la pluie sont présentés dans toutes les cultures mésoaméricaines et dans le monde entier. Nous avons par exemple à Teotihuacan une sculpture du dieu Tlaloc dans le temple de Quetzalcoatl. Nous avons aussi les dieux de la pluie à Zapoteca, culture qui se développa à Oaxaca, à Mexico. Zapoteca signifie les gens des nuages. Vous pouvez voir l'importance qu'il y avait l'eau pour les Zapotecs. Et leur dieu de la pluie s'appelait Cosillo. Dans la culture de Veracruz, ici au Mexico, dans la zone archéologique des Tajín, nous avons les Totonacs. Et le dieu du tonnerre et de la pluie est appelé précisément Tajín. Et nous avons aussi indéniablement dans la culture de l'Inde millénaire le dieu Varuna, qui est aussi un maître, même comme Tlaloc, qui existe et qui n'est pas une invention, ce n'est pas une idole. C'est un être divin que nous pouvons aussi appeler et invoquer, aussi. Bien qu'il est connu dans l'Inde, nous pouvons l'invoquer de tout notre corps et de toute notre âme, et il répondra à notre appel Chez les Mayas, il y a un dieu représenté de façon merveilleuse et extraordinaire avec un très grand nez. On dirait un tronc d'éléphant. Il s'agit du dieu Shak, qui est le dieu de la pluie parmi les Mayas. C'est même Tlaloc aztèque. Chez les Mixtecs, le dieu de la pluie s'appelait Tsawi. Nous le voyons ici représenté. Le dieu de la pluie est une divinité qui est représentée dans toutes les cultures du monde. Alors, le maître Tlaloc existait bel et bien. C'est une réalité. Nous pouvons l'appeler de tout notre cœur et de toute notre âme. Lorsque nos demandes sont sincères, ce maître vient à nous et nous répond toujours, si nous le méritons. Tous les enseignements donnés dans les pyramides, dans les codex et les divers éléments concernant les dieux Tlaloc nous montrent qu'en réalité, un schéma ésotérique que nous pourrions appeler le schéma ésotérique de Tlaloc. Parce qu'il nous montre, à travers tous les attributs qu'on lui donne, des travaux que nous pouvons réaliser. L'une des choses la plus classique par laquelle il se distingue et qui est le plus facile identifiable parmi les divinités aztèques, ce sont ses cercles, ses lunettes, qui lui entourent les yeux. Cela pour mettre l'accent sur le regard, sur les yeux. Cela nous montre qu'il fait diriger son regard vers notre intérieur. Il est très important. Les lunettes ou les cercles autour des yeux sur le visage de Tlaloc est une caractéristique fondamentale. Ces lunettes sont formées par du serpent qui forme un masque. Les serpents dans la culture aztèque ne sont pas les symboles du... Pardon. Les symboles du mal ou un symbole négatif, ni les serpents tentateurs de l'Éden. Pas du tout. Pour les Aztèques, les serpents étaient les symboles de la sagesse, de l'éternel principe féminin, force créatrice de la nature. Nous pouvons observer sur ce dessin que vous avez, sur l'écran, que nous voyons ici qu'il y a deux serpents dont les têtes se rejoignent pour former la bouche du dieu de la pluie, de laquelle sortent des longues dents, voyez-vous. Le dieu Tlaloc est toujours représenté avec des canines qui ne sont pas à lui, mais qui font partie du masque sacré qu'il utilise, formé par les deux serpents, comme pour les caducées de Mercure que nous connaissons. Tlaloc n'a pas de dents. Celles-ci font simplement partie de son masque sacré divin. Et si ce masque est formé par deux serpents, c'est parce que ces serpents représentent la sagesse. Les corps de ces serpents sont placés de telle manière qu'ils forment ces cachets-oreilles qui sont aussi un symbole classique du dieu de la pluie. Ces cachets-oreilles nous montrent qu'il faut nous orienter dans notre monde intérieur. Nous ne pourrions pas avancer d'un centimètre sur le chemin ésotérique si nous ne commençons pas pour nous observer, si nous ne commençons pas à identifier nos propres erreurs, si nous ne commençons pas à diriger notre attention dans notre intérieur. C'est-à-dire nos émotions, observer nos émotions, nos pensées, nos sentiments, nos impulses, nos personnalités, notre personnalité. Voilà ce qui est nécessaire et Tlaloc nous le fait bien comprendre. Nous les dit, nous les indique par ses sculptures, ses codex et toutes ses représentations. Il nous dit, observe-toi, dirige ton attention vers ton intérieur, ne regarde pas les erreurs des autres, découvre plutôt les tiens. C'est ce qui signifie en fait ses oreilles. Elle nous indique le chemin à suivre. Les tenues de Tlaloc sont extraordinaires. Son masque sacré, formé par deux serpents, nous indique son aspect divin. Le diadème sur sa tête nous montre qu'il veut dominer son mental. L'éclair qu'il tient dans sa main droite représente l'éclair avec lequel nous pouvons lutter pour combattre nos agrégats psychologiques, parce qu'il représente le feu. Le feu sacré qu'il faut épargner et apprendre à manier comme le fait Tlaloc. Ces bracelets représentent la liturgie. c'est-à-dire toutes les choses que nous devons faire, les faire religieusement, tant lors des rites et des rituels qui sont tout à fait valables, mais aussi pendant toutes les choses que nous faisons durant notre vie quotidienne. Les repas, les réunions en famille, notre travail, notre relation avec les autres, tout doit être sacré et fait de façon sacrée, comme un rituel religieux. Le maître Jésus avait l'habitude d'inviter ses disciples à dîner pour leur donner les enseignements sacrés. Les brassalettes nous indiquent le schéma. La tunique représente le corps existentiel supérieur qui nous fait créer pour que l'être puisse se manifester. Les parties les plus divines puissent se manifester ici et maintenant, mais nous avons besoin d'un véhicule approprié. Et ce véhicule approprié s'appelle les corps existentiels supérieurs de l'être, qui sont créés lorsque nous transmutons, lorsque nous profitons de nos propres énergies créatrices, énergies sexuelles. Les sandales nous montrent qu'il faut apprendre à marcher avec humilité pour arriver à la sagesse. Il faut apprendre à être humble, et d'une fois cette humilité acquise, être encore plus humble. L'orgueil ne permet pas à la sagesse d'entrer en nous. Les boucliers nous montrent qu'il faut apprendre et savoir nous protéger, et la meilleure façon de nous protéger est de travailler. Attention, nous recevons beaucoup de questions. Par exemple, cher instructeur, comment pourrais-je protéger ma famille, ma maison, ma vie des choses négatives, de sorcellières, etc. La meilleure façon de nous protéger est de travailler, mes chers amis, avec les forces merveilleuses de l'amour, de travailler en nous-mêmes. Si nous travaillons en nous-mêmes de manière sincère, profonde, nous serons protégés autour de nous. Nous aurons beaucoup de protection par ce travail. Dans les cas contraires, si nous tombons dans les péchés, dans la luxure, l'orgueil, les rumeurs, la malédiction, etc., nous n'aurons pas aucune protection. Au contraire, nous appelons les choses négatives dans notre vie. Dans le Codex Borgia, nous pouvons observer un glyphe extraordinaire du dieu Tlaloc. Nous voyons un œil qui nous montre l'essence de l'auto-observation psychologique, nous montre qu'il faut diriger notre attention vers notre intérieur. Cet œil est entouré par quatre niveaux qui nous indiquent les quatre sacrés, et ces quatre sacrés est le nom du dieu. Tetra Gramma Ton. En hébreu, le nom de dieu est fait de quatre lettres. Yod-He, Bau-He, ce sont des lettres hébreux. C'est de là que vient le nom de Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Le tétragrammaton apparaît ici et ce que nous pouvons observer en dessus sont les dents. Les canines du masque du dieu Tlaloc nous montrent la férocité que nous devons avoir, la volonté dont nous devons faire preuve dans cet intense travail. Car ce travail intérieur contre nous-mêmes, contre nos défauts, n'est pas fait pour les lâches et les pureux. Il faut beaucoup de volonté pour les mener à bien, et beaucoup de courage aussi, parce que ce n'est pas facile de découvrir que nous avons des monstruosités à notre intérieur. Ce n'est pas facile, et si nous n'avons pas le courage pour l'affronter, nous finirons par fuir de nous-mêmes, justifier nos propres défauts. Oui, peut-être je suis cruel avec mes enfants, mais c'est pour son bien. Peut-être je parle très fort à mes copains dans le travail, mais c'est pour les montrer qu'il faut que nous devons faire les choses bien, parfaites. Et alors, nous justifions nos erreurs, notre propre cruauté, de n'importe quelle façon. Et il est nécessaire de travailler avec tout cela. Nous voyons parfaitement les deux petites canines dans cette image du masque divin du dieu Tlaloc et de ses masques, comme nous l'avons dit, est formé par deux serpents qui se rejoignent. Des crochets ou des jarres ont été découvertes à l'effigie du dieu Tlaloc. Nous pouvons voir les nefs formés par les serpents qui s'enroulent comme pour les caducées de Mercure. Ils ont là cette forme les nefs. Le corps forme les souliers du masque du dieu, le corps de la serpent. Et leur tête se rejoignent pour former sa bouche. Les canines, les crocs ou les dents appartiennent au serpent et juste en dessous, on peut voir une langue bifide qui couvre le visage du dieu Tlaloc. Nous l'avons dit, les serpents représentent les sagesses et les croches représentent l'éternel principe féminin divin. Pour les anciens de toutes les cultures du monde, durant leur âge d'or, la femme n'a jamais été sous-estimée. Il y avait une culture matriarcale. La maison est ingouvernée par la femme parce qu'elle représente les principes féminins éternels dans le cosmos, dans la nature et dans notre maison. C'est elle qui donne la vie et c'est de ces principes féminins éternels que tout surgit dans l'univers et il est bien représenté avec ces croches de Tlaloc. Un autre symbole classique de Tlaloc, à part ses soyeres, ses petites canines et son masque, c'est son sacre de copal. Le copal est un encens aussi bien au Mexique que dans les cultures européennes, hindoues et tibétaines. L'encens a toujours représenté une invocation au divin, au spirituel. Souvenons-nous des rois mages qui ont offert de l'encens, de la myrrhe et de l'or à l'enfant Dieu Jésus. C'est un symbole merveilleux parce que cet encens représente la transformation, la transmutation de nos forces. Si nous avons Tlaloc, le dieu de la pluie, il ne pourrait manquer son épouse parce que nos ancêtres ne parlaient pas seulement d'un dieu masculin, mais aussi du couple divin qui représentait l'éternel principe masculin divin, dans ce cas avec Tlaloc, et l'éternel principe féminin divin avec son épouse, Chalchihuitlicue. Cela devait naître ainsi. N'avons pas en Égypte Osiris et Isis, n'est-ce pas? Eh bien, aussi au Mexique, nous avons toujours la couple divin. Le nom de l'épouse de Tlaloc, Chalchihuitlicue, signifie celle qui porte une jupe faite de jade et nous indique les principes féminins divins et les principes masculins divins. Et Tlaloc et Chalchihuitlicue. Le mot Elohim nous le dit aussi. Elohim, un mot hébreu. C'est un mot hébreu qui vient de Eloah, voulant dire déesse, et Him, voulant dire Dieu. Ce mot s'est traduit par Dieu dans les versions modernes bibliques. En réalité, Elohim signifie Dieu et déesse. On représente Tlaloc et son épouse comme des âmes jumelles. Et ces âmes jumelles sont en fait l'âme humaine et l'âme divine. Dans l'être humain, dans les parties les plus spirituelles de notre nature intérieure, nous avons une âme humaine et une âme divine. Chaque être, chaque personne possède deux âmes. L'âme humaine doit travailler et l'âme divine est celle que nous devons conquérir. Voilà ce qu'elle représente. L'épouse de Tlaloc, elle représente l'âme divine. Et nous tous, tant que nous sommes des hommes ou des femmes, nous devons travailler dans notre réalité, dans notre vie, pour retourner à cette partie supérieure de nous-mêmes et la conquérir, cette âme divine. Et avoir ce mariage parfait à notre intérieur pour arriver plus tard à l'incarnation de notre être divin. Chaque être, chaque personne, alors, possède deux âmes. Elle est représentée aussi par cette Valkyrie. Valkyrie, dont parlait la mythologie nordique. Cette belle Sulamita, du chant des chants du sage Salomon. La belle Hélène, de la mythologie grecque, représente aussi la main divine. C'est une représentation positive d'Hélène. Si Talok représente la pluie, son épouse, Chalchiutlique, représente les eaux terrestres. C'était aussi la déesse de la mort. Et cela ne pourrait pas en être autrement, parce qu'elle en donnait, à l'époque, une grande importance au mariage. Il fallait que l'homme et la femme incarnent ces principes divins. Nous voyons ici ces précieuses sculptures qui ont été découvertes avec Tlaloc et son épouse pour nous montrer l'importance du mariage. Il faut apprendre à avoir dans son partenaire, à voir dans notre partenaire ses chemins secrets. Le chemin intérieur, le chemin à la perfection, est là, avec notre partenaire, dans le mariage parfait, comme le représente ici Tlaloc et son épouse Chalchiutlique, parmi les Aztèques. La représentation de la déesse de l'eau terrestre, l'épouse de Tlaloc, la représentait jeune, coiffée d'un diadème, avec un cap du pubis couleur cette eau. Mais il existait de ces merveilleuses représentations du Tlaloc. Nous avons aussi une représentation très intéressante du paradis de Tlaloc. Le paradis de Tlaloc se nomme le Tlalocan, qui signifie en Nahuatl « can », lugar, lieu, et veut dire le lieu de Tlaloc, c'est-à-dire le paradis de Tlaloc. Pour comprendre cela, il est intéressant d'étudier en temps, soit peu, comme étaient représentées les dimensions pour les Aztèques. Les Aztèques disaient qu'il en existait 13 cieux et 9 enfers, exactement comme le dit Dante Alighieri. 9 enfers. Eh bien, les 13 cieux seraient les 7 dimensions dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire physique, vital, astral, mental, causal. La dimension de la conscience et celle de l'être. Ce sont les 7 premières dimensions fondamentales dans la nature. Ensuite, nous avons la région de l'Esprit Saint, la région du Christ et la région du Père, c'est-à-dire les 3 logos. L'Esprit Saint, le Fils et le Père, qui nous fait 10 dimensions, d'accord? Au-dessus de ces 10 dimensions, nous avons l'absolu. Et l'absolu a 3 aspects. Ce qui nous fait, en tout, 13 cieux. Il y a donc 9 enfers et 13 cieux. Le paradis de Tlaloc correspond au monde causal, le monde des causes naturelles. C'est une région ineffable, connue par les Aztèques. Une région spirituelle, bien sûr. Une région dans les dimensions supérieures de la nature, connue, je le répète, par les Aztèques. Selon nos ancêtres, en accord avec nos activités, lorsque nous mourions, nous pouvions nous diriger vers 4 endroits. Si on mourait sur les champs de bataille à cause de ses ennemis, ou si une femme mourait durant l'accouchement, on allait directement dans la maison du soleil pour l'accompagner dans son cours. Tout cela est bien sûr symbolique. Celui qui meurt sur les champs de bataille, c'est-à-dire celui qui désenterre ses défauts psychologiques, peut bien sûr accompagner le soleil dans son parcours, parce que le soleil représente son être. Et si nous mourons dans nous-mêmes, si nous éliminons nos ennemis, nos défauts psychologiques, si nous mourons parce que nous détruisons les défauts, les péchés en nous, alors nous pouvons accompagner le soleil, l'être. Ceux qui mourraient avant leur naissance, ou mourront durant l'accouchement, c'est-à-dire en étant enfant et n'ayant pas encore l'âge de la raison, se dirigeait là où se trouvait l'arbre nourricier, le 13e ciel. Tout cela est vraiment très intéressant. C'était des êtres innocents qui allaient au 13e ciel. Ceux qui mouraient sans appartenir à toutes ces catégories, c'est-à-dire les personnes normales, courantes, aller dans le Mictlan, dans l'inframonde, les lieux des morts, Mictle, voulant dire morte, et Tlan, endroit. Et de là, ils passent dans les 9 cercles dantesque ou le neuf enfer pour les Aztèques, comme nous le raconte la tradition. Mais il existait aussi un quatrième endroit. Ceux qui mouraient nauséés ou à cause de l'éclair allaient directement dans le paradis de Tlaloc, de Tlalocan. C'est vraiment intéressant. Pour combattre l'ego, il faut avoir l'éclair de Tlaloc dont nous avons parlé. Parce que cet éclair représente le feu sacré. Mourir nausé signifie nausé dans les cieux purs de vie. En travaillant avec eux, lorsque nous apprenons à canaliser notre énergie créatrice, nous pouvons éliminer l'ego avec plus de facilité. Il nous indique que ceux qui combattent l'ego, ceux qui désintègrent leurs défauts psychologiques et cédant de leur eux pur de vie ou moyen de l'éclair, peuvent très certainement se submerger alors dans le monde supérieur de conscience, dans les cieux des régions où, pour les Aztèques, au paradis de Tlaloc, les Tlalocan. Et ce n'est pas tout, mes chers amis. Chaque maître régit un certain type d'élémenteux. Tlaloc, lui, régit ou gouverne les élémentaux de l'eau. La nature est quelque chose de vivant, rempli de vie. Saint Augustin appelait ces élémentaux de la nature les douci. Les Indiens Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, les appelaient los animos. Au Moyen-Âge, on les appelait ces élémentaux des eaux les ondines, les néréides et les sirènes. Et les Aztèques les appelaient aux élémentaux de l'eau les tlaloques. Les tlaloques étaient ceux qui aident au dieu Tlaloc pour faire tomber la pluie, pour arroser la terre là où il fallait. Et quand il fallait, et il y avait un Tlaloc à chaque point cardinal. Il y a un poème nahuatl qui peut nous aider à comprendre toutes ces tâches exécutées par les élémentaux de l'eau. Il nous dit. Voyons là-bas. Il nous dit. Les dieux Tlaloc vivaient dans un grand palais avec quatre chambres. Et au milieu de celui-ci, il y avait un patio avec quatre énormes tuneaux remplis d'eau. Les premières tonneaux contenaient l'eau qui pleut en son temps et féconde la terre, puis qu'elle donne des bons fruits. Ce qui montre qu'il y a toujours un principe intelligent qui fait pleuvoir là où il faut qu'il pleuve. Le deuxième tonneau contient de l'eau qui abîme les moissons et qui fait perdre les fruits, c'est-à-dire l'inondation. Le troisième tonneau contient l'eau qui fait geler et sécher les plantes, c'est-à-dire avec de la neige et de la grêle. Le quatrième tonneau contient l'eau qui produit la sécheresse et la stérilité, c'est-à-dire la manque d'eau. Tout est gouverné par les dieux Tlaloc. Tlaloc gouverne les Tlaloc, et les Tlaloc sont ceux qui sont chargés de faire apparaître la pluie là où elle doit tomber. En accord avec la loi. Ils font tomber la pluie lors des inondations qui font tomber la neige, la grêle ou l'eau qui produit la sécheresse et la stérilité. Tout ceci est très significatif et représente quelque chose de très réel. Cela veut dire que la nature est vivante, chers amis, qu'il y a des intelligences ou des consciences derrière, que la nature a des principes d'intelligence, mais cela représente aussi symbolique et ressemble beaucoup à la parole du Sommeur du Maître Jésus qui est une connaissance universelle. Pardon. D'alors, le Maître Jésus donna son enseignement avec beaucoup de paraboles. Voyons. Le semeur sema ses graines. Une partie de celles-ci tomba sur les bords du chemin. Les oiseaux les mangent. Une autre partie de ces graines tomba dans les cailloux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle germerait un peu. Puis, lorsque le soleil montre ses rayons, elle brûlait parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre partie de ses reins tomba dans les épines, et les épines l'étouffèrent. Mais une autre partie, enfin, tomba sur la bonne terre, et elles donnèrent du fruit avec un rendement décent, 60 ou 30 pour un. C'est le même enseignement qui est donné dans ces merveilleux poèmes de nos ancêtres mexicains et les Tlaloc. L'eau qui féconde la terre à temps, c'est cette même graine du Maître Jésus, dans sa parabole du semeur qui l'a fait tomber sur de la bonne terre. Il parle en fait de l'arnaud qui tombe dans les personnes mûres et sincères. Et bien sûr que cette graine donnera des bons fruits, parce que ce sont des personnes qui n'iront pas dans le pseudo-occultisme ou dans le pseudo-sotérisme. Elles ne mélangeront pas l'arnos avec des autres enseignements. Elles étudieront avec une certaine maturité, feront leur pratique et l'intégreront dans chaque acte de leur vie. Et dans ces cas-là, il est évident qu'elles donnera des bons fruits. Les reines qui tomberont dans des cailloux, c'est-à-dire dans les aspirantes superficielles, en étudiant de l'agnose, peut-être malheureusement superficielle, et nous pouvons les représenter aussi, nous pouvons être cela, si nous ne pratiquons, si nous ne vivons les connaissances. Bien. Ces étudiants superficiels qui ne voudront pas faire le travail en voulant toute leur soi du donnez-moi les réponses, donnez-moi un mantra pour faire une fois, et pour résoudre mes problèmes. Cela n'existe pas. Le premier rayon du soleil sécherait ces plantes, c'est cette même eau qui produit la sécheresse et la stérilité. L'eau qui provoque les inondations sont ces graines qui tombent parmi les espines, qui sont des personnes qui ne font que critiquer les autres, et les critiques que l'on fait aux autres produisent des grands dommages. Font beaucoup de mal. Elles sont comme un boomerang qu'on envoie et qui revient plus tard vers nous avec force comme un rayon de vengeance. L'eau qui gèle, c'est cette graine qui tombe sur les côtes du chemin. Arrive les oiseaux de la mondanité et du matérialisme grossier et alors les graines sont mangées et elles sachent. La plante ne donne pas de fruits. Voyez la ressemblance de ce poème Nahuatl. Pardon. La ressemblance de ce poème Nahuatl avec la parabole de Maître Jésus, c'est le même enseignement. Le dieu Tlaloc a, à son service, beaucoup de ministres, qui sont les élémentaux de l'eau, qui ont un corps de petite taille. Ils vivent dans chacun des chambres du château, chacun selon sa couleur. Ils sont bleus comme les couleurs du ciel, blanc, jaune et rouge. Ils sont des grands arrosoirs ou pichettes et un bâton dans les mains. Ils vont arroser la terre lorsque le suprême dieu de la pluie leur ordonne. Quand résonne la tonnerre, cela veut dire qu'ils cassent leurs pichettes et si un éclair tombe, c'est qu'un fragment de ces pichettes cassées tombe sur la terre. C'est vraiment une très jolie façon de parler de la vie, de la conscience dans la nature, derrière chaque phénomène de la nature. Beaucoup de représentations de ces Tlaloc ou élémentaux de l'eau ont été découvertes. La majorité possède ces symboles apparaissants dans les sarcophages égyptiens, les mains croisées sur la poitrine. C'est la scène en représentation de la mort psychologique, la mort antérieure. Lorsque vous faites une incantation, faites de même mettez vos bras et mains croisées sur la poitrine, exactement comme la représentation de Tlaloc. Cela montre que vous êtes disposé à désintégrer l'ego, que vous êtes disposé à en finir avec le moi-même, à le désintégrer. Dans tous les niveaux, afin que naisse en vous-même la lumière de la spiritualité. Nous devons revenir dans le passé pour nous souvenir de ces enseignements ancestraux et faire des invocations sacrées à des divinités, à ces divinités. Il existe des sons qui sont les mantras avec lesquels nous pouvons appeler les élémentaux de la nature lorsque nous pensons que c'est nécessaire. Nous pouvons les faire avec les mantras Beya, Vajala, Bejala, Ejala, Veya. Nous pouvons appeler ces ondines, ces naraïdes, ou les tlaloc des Aztèques avec ces mantras. Veya, Baya, La, Veya, La, Eya, La, Veya. Nous pouvons le faire devant un verre, devant une rivière, ou un fleuve, ou devant l'océan ou la mer. Ces ondines, ces néraïdes, ces sirènes ou tlaloc, nous assisterons alors, si nous les méritons, si la loi du karma les permite, d'accord? Dans les pyramides de la Lune, à Teotihuacan, on s'est placé sur le sol en imitant la position de la renouille pour invoquer les dieux tlaloc et en imitant le chant de la renouille. C'était une invocation à la pluie, et nous aussi nous pouvons le faire ainsi. Nous nous plaçons comme la renouille accroupie en faisant les sons de renouille. Croix, croix, croix. Nous devons nous concentrer dans ce moment sur le maître tlaloc en lui demandant de l'eau pour arroser nos terres ou nos villes pendant la sécheresse. Comme le dit le maître Jésus, demandez et il vous sera donné. Mais il faut faire sa demande avec beaucoup de foi. C'est en partie la tradition des gens dans les petites villes, dans les champs. Ancienne tradition où il faisait des pèlerinages pour invoquer la divinité et pour demander de l'eau. Ce sont des traditions très intéressantes. Et nous voyons ici comment les Aztèques avaient des traditions ou des pratiques ésotériques pour les faire aussi, pour demander de l'eau. Comme l'a dit le maître Jésus, demandez et il vous sera donné. Mais, je le répéterai toujours, en accord avec la loi du karma. Mais nous devons demander, nous devons faire notre partie, d'accord, notre travail, nous devons demander. Si quelqu'un a mal à la tête, on peut mettre un peu d'encens sur sa tête, pour que les douleurs passent. Mais on peut aussi mettre de l'encens dans l'eau. Et c'est une autre manière d'appeler les ondines et les néraïdes de l'eau. Il existe un mantra qui nous permet d'aller dans la région où se trouvent ces maîtres. Et ce mantra est le mantra Aloha Ba Dat. On se détend son corps physique, on relaxe son mental, on répète de nombreuses fois ce mantra avec beaucoup de foi. Avec les corps et le mental relaxés. Aloha Ba Dat. Pour nous rapprocher à ces lieux, à ces régions, à ces dimensions où ces maîtres qui ont pouvoir sur la nature habitent. D'accord? C'est comme frapper à la porte du mont causal, où vite le maître Tlaloc, Coatlicue, Huehuetéotl ou Ehecatl, pour lui demander son aide. Après être concentré sur ce mantra, après le répéter, nous nous concentrons pour demander ces dieux sacrés l'aide que nous avons besoin, que nous en avons besoin. Si nous avons fait de bonnes œuvres, nous serons bien sûr écoutés par les grands maîtres. On a aussi beaucoup parlé des sacrifices que l'on faisait au dieu Tlaloc. Il a été dit qu'il existait des sacrifices d'enfants innocents. Il paraît évidemment que dans la période d'involution de toutes les races, ont été commis beaucoup d'actes barbares et cruels. Voyez comment de nos jours, le nombre de morts qu'il y a, des crimes, des guerres, des tortures, des choses vraiment terribles, nous les voyons partout. N'est-ce pas? En réalité, les Aztèques dégénéraient et firent des sacrifices humains. C'est certain, chers amis, c'est certain. Mais, en même temps, nous sommes en train de payer gravement tous ces délits et tous ces horreurs que nous avons commis à l'époque de la dégénération des Aztèques, ici au Mexique. Si vous voyez comment est notre pays actuellement, vous pouvez dire, peut-être, si vous habitez même n'importe où, autour du monde, vous pourriez vous dire, mais pourquoi Mexico est-ce comme ça si la Mexique a beaucoup d'opportunités, beaucoup de capacités, oui, mais nous avons aussi un karma. Et ce karma est la conséquence des atrocités commises par les Aztèques. C'est notre réalité. Et c'est la réalité de beaucoup de places autour du monde. Eh bien. Et ce sont des choses commises par les Aztèques dans leur période de dégénérescence. Mais les Aztèques ont eu une période, un âge d'or, un âge d'évolution, un âge de spiritualité. Et les sacrifices non existaient dans ce temps-là. Les sacrifices qui s'effaçaient consistaient à sacrifier ses passions, ses jalousies, sa critique, sa colère. Les offrandes que l'on faisait au dieu Tlaloc étaient de cette nature. Croyez-vous qu'il soit si facile de sacrifier sa langue pour ne plus critiquer les autres? Je ne parlais pas de se couper la langue, mais de sacrifier l'instant, la critique est nue. La tendance à critiquer les autres. Le maître Samael se trouva un jour dans le monde supérieur de conscience et il parla avec Tlaloc. Et le maître Samael lui reprocha injustement tous ses sacrifices en lui disant « Tu, Tlaloc, tu as accepté les sacrifices d'enfants innocents, de femmes et même de vieillards. Tu as commis un crime. » La réponse de Tlaloc fut la suivante. « Je n'ai jamais exigé de tels sacrifices. Ces sacrifices ont été des actes des personnes du monde physique. » C'est comme si nous rapprochions, écoute bien, c'est comme si nous rapprochions aujourd'hui au maître Jésus de ce que fit la Sainte Inquisition. C'est exactement la même chose. La Sainte Inquisition et les sacrifices des innocents dans les périodes de dégénérescence aztèque sont des choses commises par les hommes et les femmes déjà dégénérés, qui ne comprennent pas la religion, leur religion. Le maître Jésus n'avait rien à voir avec la Sainte Inquisition, rien. Le maître Tlaloc n'avait rien à voir, non plus, avec tous ces sacrifices sanglants commis par les Aztèques dans leur période de dégénérescence. D'accord? Le maître Tlaloc a même compromis qu'il viendra durant l'âge d'or de la future race Koradi, la sixième race humaine, pour aider l'humanité avec sa sagesse. Ces sacrifices qui ont été représentés dans les stèles, comme sur les murs du lieu de la pelote des anciens, représentaient en fait la lutte contre nos propres défauts psychologiques, chers amis, la lutte contre nos passions. Voilà ce que ces sacrifices représentaient vraiment. Et c'est un grand sacrifice, oui. Chers amis, il est très important que nous retrouvions tous les trésors ésotériques du passé en les comprenant de manière juste. Nous devons les faire renaître la sagesse, faire ressortir à nouveau cette sagesse millénaire. Nous vivons aujourd'hui dans une période noire, remplie de mystères intérieurs et extérieurs, et remplie de souffrances. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de cette lumière que nous ont laissée nos ancêtres. Nous vivons actuellement dans les ténèbres de l'héroïsme, de l'ignorance, de l'erreur, et les enseignements qui se trouvent dans les stèles, dans les pyramides et les codex, nous redonneront de la lumière. Nous devons nous convertir en de véritables guerrières contre nous-mêmes, car le mal, car l'ennemi, est à notre intérieur, et non pas dans des luttes fratricides contre nos frères, contre l'humanité, bien sûr que non. Nous devons lutter contre notre pire ennemi qui est à notre intérieur, nos péchés, nos défauts psychologiques. Pour cela, nous devons porter les lunettes ou les olières du dieu Tlaloc pour diriger notre attention dans notre monde intérieur, pour découvrir nos erreurs. Nous devons mettre ces masques formés par 2 serpents de la sagesse, avec les canines de la volonté et de la fermeté. Nous devons épargner les rayons de la loque. Cet éclair dans notre main droite peut combattre nos défauts. Cet éclair représente les feux à notre intérieur, les feux sacrés. Chers amis, nous souhaitons que les eaux de Tlaloc arrosent votre jardin secret avec ces eaux qui arrivent à temps, avec ces eaux qui fertilisent la terre pour donner des fruits et de l'esprit dans chacun des buts. Chers amis, voilà. Nous avons terminé notre conférence d'aujourd'hui. Mes chers amis, nous vous recommandons les livres qui ont été faits pour vous. Tlaloc, les vents qui voient la terre, par l'Institut culturel Quetzalcoatl, ainsi que les mythes de la naissance de Colibri-Gauchère par l'Institut culturel Quetzalcoatl. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner. À bientôt.